Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur la radio mondiale et bien on est tous contents, je suis contente de vous retrouver. Les jeux, quels qu'ils soient, sont terminés. On revient à nos moutons, on revient au ballon rond, ça rime. On revient au football bien sûr et j'espère que ça continuera ce sport à vous intéresser. En tout cas, plus la saison avancera et plus ça devrait nous passionner. En tout cas aujourd'hui, nous commencerons par l'Afrique avec des léopards victorieux et bien partis pour rallier le Maroc. Les éliminatoires de la prochaine CAN se termineront aujourd'hui, ce soir, et la RDC reste sur sa lancée ivoirienne alors que les Black Stars du Ghana sont toujours l'ombre de ce qu'elles furent. Aucune victoire en deux matchs, des rencontres encore bien trop souvent délocalisées. Nous en parlerons, n'est-ce pas? Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Hein,
plein de choses passionnantes à dire sur ces équipes africaines.
On peut faire trois heures si vous voulez.
Ouais, bah, non, on y reviendra demain aussi. Hein. Ouais. Il faudra être là.
On va revenir.
Les Bleus vainqueurs des Diables Rouges, une équipe de France plus entreprenante. Didier Deschamps aurait-il trouvé des solutions aux limites de son équipe, celles qu'on avait vues en tout cas depuis l'Euro? Faut-il être optimiste alors que ses cadres sont loin de leur niveau? Monsieur Dominique Sévrac, est-il un homme optimiste?
Écoutez, déjà, vous êtes content. Donc, si vous êtes contente, je suis content, Annie, car c'est mon baromètre. Si vous êtes content, je suis content. Si vous n'êtes pas content, je suis pas content.
Et êtes-vous optimiste?
Et là, maintenant, je n'ai jamais perdu mon optimisme.
Arrive. C'est vrai que c'est
un
optimisme légendaire. La Nationale est de retour dans le cœur des tifosi d'abord, mais aussi sur la pelouse, on l'a vu, aux dépens des Bleus, oui, bien sûr. Après la grande désillusion de l'Euro, l'équipe italienne et son sélectionneur ont repris des couleurs. C'est ce que vous pensez aussi, Eric Rabessandratana?
Ouais, ils ont fait un match. Bonjour Annie, bonjour à tous. Ils ont fait un match intéressant contre l'équipe de France. Hein, ouais. Bon, j'ai pas eu l'occasion de voir le deuxième, mais en tout cas le premier, bien plu.
Je ne sais pas si Matteo Cioffi est optimiste, mais il est un peu rassuré.
Il est toujours optimiste.
Je crois qu'il nous le dira tout à l'heure. Oh, ça dépend. Et il nous le dira tout à l'heure. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin, bien sûr. Et puis Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
La petite ballon dessus, c'est bien fait. Et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début. La tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement. Fiston Mayele répond présent.
Papa, la frappe.
Oh, le but.
Oh, le but exceptionnel avec Alidou Seydou qui permet à cette équipe ghanéenne de mener 1-0. Attention à ce ballon qui traîne à 7 mètres de réparation. La reprise, et bien voilà, l'égalisation, elle est là en faveur du Niger. Et le Ghana surpris.
Et oui, les Congolais sur leur nuage, l'équipe du capitaine Chancel Memba nous avait déjà séduit durant la CAN en Côte d'Ivoire, au cœur de l'hiver, se hissant en demi-finale. Et les voilà bien partis pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Deux victoires et la tête du groupe H après les victoires sur la Guinée, 1-0, puis hier sur l'Éthiopie, 2-0. Est-ce que vous aussi vous êtes séduit par cette équipe de la République démocratique du Congo, Patrick Juillard?
Oui, je suis séduit parce que les nouveautés qu'apporte par petites touches Sébastien De Sabre fonctionnent. Les nouveaux arrivants dans l'équipe s'intègrent bien. Il y a une bonne dynamique.
Et sur le jeu
groupe.
D'abord de l'équipe.
Et sur le jeu, je trouve que c'est une équipe. Alors, le match contre l'Éthiopie hier n'était pas exceptionnel dans la production, mais c'est une équipe qui sait très bien concrétiser ses temps forts. Et c'est une équipe qui a une belle maturité tactique. Donc ça, on voit la marque d'un entraîneur, là, de Sabre. Et puis, ils sont, sans être flamboyants, ils ont le mérite d'être efficaces. Et puis, ce qu'on a vu hier et qui est intéressant aussi pour ce que je disais, la dynamique du groupe, c'est que les remplaçants, enfin les joueurs entrés sur le terrain, ont tous été décisifs. Bongonda a marqué le premier but. Et puis, c'est Elia qui a servi Mayele pour le deuxième. Et ces trois joueurs, ce sont des joueurs qui sont entrés en cours de jeu. Donc, ça montre que ouais, il y a une émulation et que il y a plus que 11 joueurs, il y a un groupe. Donc tout ça est très positif, même si bon, pour relativiser un peu, la RDC a pas joué des équipes de top niveau pour l'instant dans cette poule, mais Mais encore faut-il faire carton plein.
Voilà, exactement.
C'est pas donné à tout le monde.
Et en plus, ces éliminatoires, on le sait, il y a des groupes, il y en a beaucoup. Et le premier passe, le deuxième aussi, et le reste voilà. À la trappe. Donc c'est aussi assez
souvent
violent.
Vaut mieux pas prendre de mauvais départ. Quoi.
Exactement. Eric Rabessandratana, cette équipe de la RDC, on l'avait vu. Belle et surtout séduisante pendant la CAN, elle est allée loin, ouais. Elle est arrivée en demi-finale. Est-ce que pour vous, quand on est joueur, il y a une émulation, il parlait d'émulation Patrick, mais aussi euphorie finalement, parce que il y a eu quand même des changements, ils ont eu des passages à vide, on va dire, depuis le départ de Florent Ibengué, et là on a l'impression que cette équipe, souvent en Afrique on dit, bon ils jouent bien mais ils vont pas loin, bah là... Ouais.
Parce qu'ils ont des bons joueurs. Mais il y a toujours eu des bons joueurs. Il y a toujours eu une équipe qui était capable d'être compétitive. Après, c'est souvent...
Et danser beaucoup.
Il y a surtout des moments de fragilité de temps en temps. Il y a des problèmes de régularité surtout. Mais c'est une équipe qui fait partie quand même des grandes équipes d'Afrique. Donc, elle est sur une dynamique qui devrait lui donner un peu plus d'allant et de régularité dans ses résultats. Mais c'est l'Afrique.
C'est l'Afrique. Mais là, elle est quand même sur sa dynamique de la Côte d'Ivoire.
Là, pour l'instant,
elle
ça s'enchaîne.
Exactement. Tout le monde ne la maintient pas.
Il va falloir voir sur la suite de la compétition. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt régulier.
Non,
c'est
pas forcément... Ce qui est positif aussi, c'est que la RDC avait perdu son gardien numéro 1. De la CAN, Pazzi, le gardien de Rodez, et son remplaçant Dimitri Berthaud, donc qui est le numéro 2 de Montpellier, en fait, s'avère très bon. Ça fait 3 matchs de suite qu'il n'encaisse pas et qu'il est très sûr. Donc, je pense qu'il y a de la qualité. Ce qui est, alors, la limite, peut-être, c'est que ce sont surtout des joueurs binationaux. Le réservoir local, il est un peu en souffrance. On va dire que le réservoir local est un peu en souffrance. Donc, est-ce que tout ce bon travail va se transmettre ensuite et s'aimer au niveau local? Ça, c'est une vraie question. Mais dans l'immédiat, De Sabre fait du bon boulot.
On peut en douter. On va y revenir à Sébastien De Sabre. Je voudrais y revenir. Mais avant, Dominique, peut-être. Chancel Mbemba.
C'est la question que je voulais vous poser. Voilà. Parce qu'il est lofté.
Ah ben non, alors, je sais pas, il est toujours lofté, mais en tout cas, c'est le capitaine de cette équipe.
Il est lofté, mais il a une telle résonance dans ce groupe et dans l'importance au pays qu'on ne peut pas...
C'est le guerrier,
même quoi. Sans jouer, on ne peut pas le mettre sur le banc.
Et pour moi, c'est ça qui est fort, non? Part de ce joueur.
Ça montre, sa bonne préparation.
Capitaine des Léopards.
Ça montre sa bonne préparation physique, parce qu'il est à court de... Il n'a pas de compétition. Donc
ça montre qu'il est très sérieux.
Il est très sérieux.
Il l'a toujours été. Vous vous souvenez de son interview où il nous avait dit, son expression favorite, c'est boulot au palais et palais boulot, c'est-à-dire je bosse et je rentre chez moi.
Mais il a 30 ans et ça montre aussi ses qualités mentales, parce que ce qu'il vit pour moi est injuste, voire scandaleux. D'ailleurs, plus généralement, pour moi, les lofts ne devraient pas exister dans le football, en tout cas français.
Est-ce que fait Marseille encore moins?
Voilà, et donc je comprends
il
pas.
Il était capitaine de Marseille, juste.
C'est-à-dire que là, il est vraiment passé de tout à rien, et je comprends pas pourquoi il ferait pas l'affaire. Alors, j'ai vu que Vertu était parti pour Lyon, parce qu'il était dans la même situation, Jordan Vertu.
Marseille a trouvé malin de renfoncer un concurrent direct en leur offrant Jordan Verretou.
Mais j'ai peur pour Chancel, j'ai peur pour Chancel. C'est un super défenseur. Ça prouve là ce qu'il vient de vivre, qu'il a encore, de belles années devant lui. Donc je comprends pas Marseille, qui pour moi défensivement, en plus n'a pas mieux que lui. Donc j'espère que sa situation va s'arranger.
Mais c'est surtout juste pour continuer sur Mbemba, c'est son implication, parce que c'est pas un mec qui a triché ou qui a joué à moitié ou qui a été impliqué toute la saison. Donc après tu le récompenses derrière parce que éventuellement le salaire ou le t'as fait d'autres choix. C'est pas possible de mettre comme ça. C'est un manque de respect, je trouve.
Ces 6 derniers mois étaient moins bons et c'était plutôt Balerdi sur la fin de saison qui avait pris l'ascendant défensivement. Mais ce qu'ils font avec lui, c'est un petit peu du chantage, parce qu'ils lui ont des comportements. Ils exagèrent certains faits. Ensuite, il n'a pas voulu aller en Arabie Saoudite parce qu'il avait une offre de Al-Shabaab en Arabie Saoudite.
C'est son choix.
Maintenant, ils sont obligés de le réintégrer puisque la période de mutation est finie. Donc, on va voir comment Je n'exclurais pas la possibilité qu'il revienne en grâce et qu'il retrouve un peu de temps de jeu. Parce que je pense qu'il n'est pas. De Zerbi n'est pas complètement idiot, à mon avis.
Je vous dis, Annie, qu'il est fort mentalement, c'est que ce que vient de décrire Patrick s'appelle pour moi du harcèlement. C'est une forme de harcèlement.
C'est exactement ça.
Mais oui, je pense que malheureusement, à Marseille, ils l'ont fait avec beaucoup de monde.
Souvenez-vous. On n'en parle pas parce que c'est du foot et que les gens gagnent de l'argent.
Mais la légende Mandanda, quand même, qui a été comme ça, boutée hors de l'équipe.
Au PSG avec Louis, ou. C'est du harcèlement. En fait, on te pousse à partir.
On te dégoûte.
Exactement. Alors que je suis désolé, mais t'as pas le droit de faire ça.
Non, et c'est pas parce qu'un footballeur est très bien payé, il n'est pas à plaindre, que les clubs ont d'utiliser des procédés contraires au code du travail. En fait, ils sont très bien payés.
Il a braqué personne. Hein. Donc quand tu gagnes de l'argent, c'est qu'on te l'a donné. Le club te l'a donné. Donc à un moment donné, c'est la responsabilité. Elle est sur le club.
Pareil que les pilotes de ligne ont le droit de faire grève. Hein. C'est pas parce qu'ils sont très bien payés que.
Exactement. Voilà.
Patrick Juillard, en tout cas, revenons à nos léopards.
On a des bons débats, quand même.
Revenons
on
à léopards.
On élargit un peu. Hein,
ouais, mais on en reste autour du sujet. Est-ce qu'on doit attribuer cette bonne période, justement, au travail de Sébastien de Sabre? On le connaît, on sait par où il est passé. Beaucoup de clubs en Afrique, hein, mais on se souvient de son bon travail, et très bon travail, en 2019, c'était avec l'Ouganda, en Égypte. Après le flottement, il y a eu un vrai flottement après le départ de Florent Ibengué, des flottements, alors notamment sur le banc, mais aussi à la fédération, à la FECO, tout ça. Est-ce que là, il a ramené finalement un certain ordre, une certaine rigueur aussi?
Oui, je me rappelle la dernière CAN après le match pour la troisième place où l'Afrique du Sud avait gagné, mais la RDC avait fait bonne figure et avait fait un très bon tournoi. Et il avait employé une expression en conférence de presse. Il avait dit « Nous allons bilanter ». Alors, le mot était un peu un néologisme.
Non, mais c'est joli.
Nous allons bilanter ce
tournoi.
Au lieu
de faire un bilan, bilanter.
Trouver ce qu'on peut améliorer et essayer de faire mieux. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. Et ce qu'il fait est très cohérent. Alors, par contre, c'est pas... On a une équipe assez gestionnaire, ce n'est pas toujours flamboyant, alors que parfois la RDC avait offert des grandes envolées et des joueurs assez fantastiques aux
Les
foot africains.
Pas en ce moment.
Mais je trouve qu'il fait du très bon boulot et que c'est très cohérent. Et puis, il peut construire sur un vécu, sur une réussite, parce que cette troisième place, ils n'étaient pas top 3 au classement FIFA africain avant cette CAN. Donc, quatrième, en demi, c'est un très bon résultat. Donc, je pense que ça donne aussi envie aux binationaux. Quand on la fédé les drague pour rejoindre les Léopards, ils sont plus enclins à dire oui maintenant qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc, c'est très positif.
On rappelle surtout que dans le groupe, il y a la Tanzanie et la Guinée. Ce n'est pas des équipes faciles. Alors, l'Éthiopie, c'est encore autre chose. Mais la Tanzanie, j'ai joué avec Madagascar. Je peux te dire que c'est une équipe qui est difficile à jouer.
C'est très joueur.
Elle est vraiment difficile à jouer. Et la Guinée, on sait qu'elle est difficile à jouer. Donc,
la Guinée a déjà été battue. Là.
Ouais.
Ils ont fait le boulot. Là.
Voilà, déjà. Il reste la Tanzanie à jouer derrière. Mais voilà, ça reste des matchs qui seront quand même compliqués, même si. Voilà, ils ont 6 points.
Alors voilà pour ce qui est donc de ce groupe H en Afrique, après 2 journées donc, en vue des éliminatoires pour cette CAN au Maroc. Parmi les résultats notables, alors il y en a eu beaucoup, mais on voulait s'arrêter quelques instants sur le Ghana. Étoile palissante ces derniers temps, on en a souvent parlé et ça ne date pas d'hier. En 2 matchs, les Ghanéens n'ont pas gagné. Hier soir, match nul face au Niger. Alors, le Niger, le Sili a arraché son égalisation dans les derniers instants. 81e minute, c'était un but de Sako. Une rencontre qui se jouait à Berkane. Et puis, il y avait quand même en face, sur le terrain, pour le Ghana. On peut quand même citer les grands noms de cette équipe. Kudus, Partey, Lamptey, Williams aussi. On a encore Jordan Ayew qui est rentré. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? On avait parlé d'un creux générationnel, mais là, quand même, on a des beaux noms qui pourraient porter cette équipe.
Oui, mais le Ghana, c'est un pays avec un gros potentiel. C'est un pays où il y a toujours eu des joueurs. Il y a encore, vous les avez cités.
Ils ont disputé combien de finales de CAN ces derniers temps? C'était énorme.
Oui, mais ça commence à dater.
Oui.
Et en fait, le Ghana... ils avaient été exceptionnels au tournant des années 2000-2010 en étant champion du monde des moins de 20 ans avec André Ayew, en étant quart de finaliste à la Coupe du Monde l'année suivante. On se rappelle de la main de Suarez. Ils sont tout près d'atteindre le dernier carré. Ils sont finalistes de la CAN en 2010, ils sont finalistes de la CAN en 2015.
Et 12 aussi, si je ne me trompe pas.
12, c'était pas eux.
Non.
Mais
non.
Au
Gabon.
Au Gabon mmh. Non.
Non.
C'est Zambie, Côte d'Ivoire. Mais ils sont en demi-finale au Gabon. Donc c'est une équipe très régulière. Et en fait, qui, depuis une dizaine d'années, si on regarde dans les catégories de jeunes, les U17 ou les U20, ils ne se qualifient plus pour les Coupes du Monde, alors qu'ils y étaient tout le temps.
Ils étaient la dernière quand même.
En U20 Non,
ah, pardon,
ça fait 10 ans.
Mm-hmm.
Plus du tout. Et c'est un pays qui n'a pas capitalisé sur les super résultats qu'ils avaient. Et ils n'ont pas développé la détection.
Il y a aussi...
C'est du coup par coup.
Il y a aussi beaucoup de problèmes autour de l'équipe,
alors, y a beaucoup
de la fédération.
On se rappelle
qu'on a du mal à trouver des sélectionneurs.
Il y a quelques années, le président de la Fédé s'était fait avoir par un journaliste qui lui avait proposé 40 000 dollars en caméra cachée.
C'est rare que je fasse ça.
Il les avait acceptés, il s'était fait dégager. Oh. Depuis, c'est un petit peu... ça tangue un peu. Et en fait, c'est un pays, si on regarde bien, ils ont subi la semaine dernière contre l'Angola, à Kumasi, ils ont subi leur première défaite à domicile depuis 24 ans. Ghana est en train de s'effondrer. Et la dernière CAN, rappelez-vous, match nul contre le Mozambique, avec une erreur du gardien invraisemblable. Et ça, ils se font éliminer pour un point. Enfin,
et ça s'est très mal terminé à Kumasi parce qu'il y a eu des heurts dans le stade.
Hein, le public supporters. Est au bord de la crise de nerfs.
Exactement, avec des jets de bouteilles, des sièges arrachés. Et c'est très, très triste ce qui se passe dans ce football
Au
Ghana.
Tu regardes le résultat de l'Angola. Ils n'ont pas perdu depuis 25 ans.
Ah, ils sont premiers, les
Angolais. L'Angola sort d'une bonne canne,
vaincu depuis 10 matchs.
Ouais.
Ils ont 6 matchs d'affilée de victoire. Et je peux te dire que je les ai vus jouer contre Madagascar. C'est une équipe qui joue au football et qui est dure à jouer.
Tout à
donc
fait.
Encore une fois, tu vois, c'est peut-être que sur le premier match, tu auras un match, mais l'Angola, presque c'était logique qu'ils aillent faire un résultat là-bas.
C'est pas faux, mais normalement, contre le Niger, en plus sur terrain neutre, c'est même pas à Niamey. Hein.
Non.
C'est sur terrain neutre à Berkane devant 800 personnes, enfin devant un public inexistant. C'est quand même un peu...
On en parlera demain de ces...
Ils doivent faire mieux, les Black Stars.
De ces matchs délocalisés. Autre résultat, il y a eu des matchs en début d'après-midi. Il y en a une quinzaine de rencontres aujourd'hui. 4 se déroulaient en début d'après-midi. Nous avons eu Eswatini Mali. Le Mali s'est imposé sur le score de 1-0. Mozambique, Guinée-Bissau, 2-1 pour le Mozambique. Rwanda, Nigeria, 0-0. Osimhen n'a pas marqué. Et puis, Soudan du Sud, ou Sud-Soudan et Afrique du Sud. Là, finalement, les Sud-Africains ont réussi à s'imposer.
95e minute, un match très accroché. Le Soudan du Sud qui progresse et qui, au contraire d'autres pays, peut recevoir à Juba. Donc, c'est aussi un avantage.
Ouais. Et d'ailleurs, les Soudanais jouent à Juba, hein, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Mais bon, le Soudan subissant une guerre terrifiante, c'est pour ça qu'ils vont jouer chez leur
voisin du
leur
Sud.
Meilleur voisin.
Le Maroc a gagné 15-0 contre le Lesotho. Donc, il y a aussi des...
93e.
Donc, il y a aussi des résultats.
Là, bon, le Maroc est déjà qualifié.
Oui,
donc pression du résultat est peut-être un peu moins forte.
Et
ils ont le mérite au moins de ne pas fausser la poule.
À domicile.
Ils ne lâchent pas a priori des matchs.
Exactement. Demain, en tout cas, nous ferons le bilan général de ces 2 journées d'éliminatoire en Afrique. On continue dans Radio Foot International. Dominique, on va vers vous.
Et là, ils sont là avec la frappe de Dembélé.
Ouverture du score.
Dembélé. Kanté, Dembélé, allez, il le mérite.
Oh oui, allez, il le mérite, Ousmane Dembélé.
Ah bah c'est pas trop tôt.
Là, la qualité est au rendez-vous. La France mène 2-0.
Du répit pour les Bleus et leur entourage après la déception face à l'Italie et la défaite 3-1. L'équipe de France s'est un peu rattrapée en remportant son 2e match contre les Belges hier soir. Des Diables Rouges très peu fringants et qui continuent, semble-t-il, à avoir le seum. Ça fait 43 ans qu'ils n'ont pas battu les Français. Donc ça va encore durer.
C'est
en
pas
tout
un
cas...
problème générationnel. Là.
Non.
On est plus loin que ça.
Je crois que c'est plutôt psychologique. Les Bleus, en tout cas, en ont profité hier. Ils ont mis un peu de temps à entrer dans le match, mais même Kolo Muani a marqué et même Ousmane Dembélé a marqué. C'est 6 buts chacun d'ailleurs sous les couleurs de l'équipe de France. Ousmane Dembélé satisfait et aussi lucide. Il a parlé juste sur le terrain en fin de match.
Il fallait une réaction, surtout après notre défaite au Parc. Ça nous a fait mal, on a parlé entre nous aussi. et puis voilà, finir sur une victoire ici à Lyon. Donc. Ouais, avec un but, voilà, on me disait de tirer en première mi-temps. Voilà, en deuxième mi-temps, je me suis dit que j'en avoir une opportunité pour pouvoir tirer, et puis voilà, fallait cadrer. Voilà, c'est toujours un plaisir de marquer en équipe de France, et c'est rentré, je suis content.
Dominique, entre le Parc des Princes et Lyon, il y a 2 heures de TGV, je ne sais pas combien d'avions, n'est-ce pas, parce qu'ils ont pas
moi, j'ai pris le train. Moi, j'ai pris le train.
Mais eux, ils n'ont pas dû prendre le train.
Vous avez pas pris
l'avion. Non, ça c'est fini. Ils l'ont fait une fois juste avant l'euro pour la cosmétique.
Ouais. Voilà, exactement. En tout cas, le voyage entre Paris et Lyon leur a permis de se parler, apparemment, et aussi de corriger des erreurs. Est-ce que vous avez trouvé une équipe revigorée à Lyon?
J'étais pas complètement catastrophé après le match contre l'Italie, et je suis pas euphorique depuis hier soir à Lyon, d'où je reviens, parce que il y a beaucoup de forfaits au milieu de terrain, qui est quand même un secteur clé, avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, qui est une vraie solution. Il y a Adrien Rabiot qui n'a toujours pas de club. Donc, il y avait une espèce de milieu Kanté, Fofana, vendredi contre les Italiens, qui n'a jamais été essayé et qui n'a aucun avenir. Et puis là, il est revenu à un système à 3 au milieu, avec un revenant Guendouzi, qui est lui le remplaçant de Tchouaméni. Donc, il n'était pas sûr qu'il joue. Zaïre Emery s'est blessé pendant le rassemblement, donc lui, il aurait joué.
Lui, le pauvre, déjà, il joue 0 minute pendant l'Euro.
Donc, c'est terrible. Mais donc, ce retour à 3, mais surtout, ils sont tombés sur plus malade qu'eux. Qu'est la Belgique, vous l'avez dit dans votre lancement, c'est une équipe qui va pas bien du tout. Il y a eu un coup de gueule monumental de Kevin De Bruyne à la fin du match, dont la presse belge se demande s'il va revenir en sélection. On en est là pour un joueur quand même qui est le joueur phare.
Qui fait la différence.
Kevin Hazard et puis là, c'est quand
même. Mais il sent un peu seul, j'ai l'impression.
Oui, mais bon, donc ça veut dire qu'il y a des sélections malades, quoi. Et l'Italie était très malade à l'Euro, puis là ça va mieux. On va en parler après. Donc je reste mesuré. Le mois prochain, ils vont jouer contre Israël à Budapest, puisqu'on ne peut pas jouer en Israël en ce moment. Mmh. Et ils vont jouer contre la Belgique. Donc peut-être qu'ils auront 2 victoires le mois prochain. Et ça ne veut pas dire que l'équipe de France sera repartie. C'est bien, c'est mieux. Quand Randal Kolo Muani était sur 5 titularisations et qu'il met 5 buts de suite en équipe de France, c'est bien. Quand Ousmane Dembélé, qui peut taper du droit, qui peut taper du gauche, marque des buts, c'est bien. Mais la qualité technique hier soir était assez moyenne au Groupama Stadium. Cette équipe de France-là, elle avait de l'envie, elle avait de l'entrain. Elle a eu un peu peur au début, puis finalement, elle s'est mise dans le match. Je l'ai aimée parce qu'elle s'est accrochée. Les 20 premières minutes sont vraiment dominées par la Belgique. Et après, elle trouve des ressorts et des ressources pour se révolter un petit peu. Donc, j'ai aimé cette équipe de France-là. De là à dire que tout est réglé, tout va bien...
Non, mais... On va entendre Didier Deschamps, il dit à peu près comme vous d'ailleurs, c'est marrant. Est-ce que vous avez quand même...
C'est toi qui lui as parlé peut-être avant.
Je lui donne les éléments de langage.
Vous avez apprécié quand même cette équipe, cette victoire hier, Eric. Est-ce que vous avez aimé certaines choses? Est-ce que vous avez aimé, Dembélé qui marque, qui jouait un peu différemment d'ailleurs? Est-ce que ça vous a plu?
Moi j'ai aimé quand même, alors bon, évidemment on peut pas s'enflammer comme le disait Dominique, mais parce que aussi l'adversaire a tellement été insignifiant au début du match. D'ailleurs, où la France n'avait peut-être pas été non plus extraordinaire. Mais n'empêche que derrière, collectivement, ça a été sérieux. Voilà, j'ai envie de dire sérieux, sans dire extraordinaire, mais sérieux. J'étais inquiet au début du match, vraiment. Franchement, déjà par la composition, je me suis dit, bon... J'avais vu sur les réseaux sociaux, j'avais rigolé parce que ça m'avait fait beaucoup rire, mais que le triangle des trois attaquants, c'était le triangle des Bermudes. On savait pas comment le ballon allait. Et j'avais beaucoup rigolé parce que c'était un peu.
Si le ballon allait pas disparaître.
On savait pas ce que ça allait donner. Et franchement,
Thuram,
c'était intéressant. Colomani, c'était intéressant. Voilà. Alors même s'il y a un peu de réussite sur le but et tout ça, mais les actions sont plutôt intéressantes dans la sortie de balle aussi. Voilà, c'était appliqué. Mais en face, c'était
Guendouzi,
pas terrible.
C'est vrai, a été un peu un agitateur. On va l'écouter justement. Didier Deschamps, parce que a-t-il entendu les critiques? On ne sait pas. Il a laissé même sur le banc ses cadres fatigués, dit-on.
Ça, c'est prévu.
Ouais, en tout cas, le sélectionneur était plutôt content, mais il met des bémols, lui aussi.
Je suis très content de la réaction qu'on a eue, ce qu'on a été capable de faire face à une très belle équipe de Belgique qui nous a posé pas mal de difficultés sur les 20 premières minutes, lié forcément un peu de fébrilité chez nous. Est-ce que c'est par rapport au contexte ou pas possible? J'apprécie, on n'était pas les plus mauvais vendredi. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, tout est beau, tout est réglé. Non, ça passe aussi par des moments comme ça par rapport à l'objectif et le cap que j'ai fixé.
Est-ce que vous aussi, vous êtes comme Dominique et Eric, voire comme Didier Deschamps, c'est-à-dire, tout n'a pas été bon hier et tout n'a pas été mauvais vendredi?
Non, je pense que tout a été mauvais vendredi et c'était plutôt pas mal hier. Mais le mot que je retiens de cette déclaration de Didier Deschamps, qui gagne ou qui perd, il a à peu près
le même ton.
Ça monte pas hein, dans les décibels.
Si on les réécoutait dans 5 ans, on se rappellerait plus si la France vient de gagner ou pas.
Je pense que c'est fait exprès, Patrick,
ouais,
n'est-ce pas?
Il veut un peu lisser les choses pour qu'en en fait, on ait l'impression qu'il fasse partie du paysage et qu'il...
Tout va bien.
Il est livré avec le.
Et qui reste jusqu'en 2026.
Voilà. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une réaction. C'est-à-dire que c'était une équipe.
Des joueurs ou de l'ensemble?
Les deux. Mmh. C'est-à-dire que la compo, c'était un peu pour piquer ses stars et ses cadres en relançant des joueurs au faible temps de jeu comme Guendouzi ou Colomouani, par exemple. Et c'était pour piquer Griezmann ou Mbappé. Ça a pas mal fonctionné, puisque notamment quand Mbappé est rentré, il s'est mis en évidence. Dans sa position plutôt en haut à gauche, comme on dit. Hein.
Où il préfère.
Ouais, où il préfère.
Et c'est là où il est le meilleur, sans doute.
Et voilà. Et donc, peut-être ça donnera des idées à ses entraîneurs de club pour jouer en 4-4-2. Bon, enfin, ça, c'est un aparté. mais moi, j'ai vu une réaction un peu à l'orgueil. L'orgueil. Mais j'ai pas vu...
Des joueurs.
Oui, des joueurs. Mais je n'ai pas vu une nouvelle donne tactique. Je n'ai pas vu des changements qui auront un effet à long terme. Mm-hmm. La France a battu une équipe malade, sans doute plus malade qu'elle. Voilà, mais il n'y a pas de quoi...
On a vu un peu de foot.
Est-ce que
on a vu un truc.
Au moins, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu une équipe qui jouait, qui essayait de continuer,
voilà,
qui donnait un peu enthousiasmante.
Contre l'Italie, voilà, on a vu du foot pendant 10 minutes et après basta. Ouais. Là, contre l'Espagne...
Dominique, vous dites l'Espagne, mais l'ensemble de l'Euro a quand même été assez triste de la part de l'équipe de France. On en souriait de cette équipe qui ne marquait pas de but dans le jeu et tout ça.
À part Colomouani.
C'était triste. Vous vouliez dire quelque chose, Eric?
Est-ce que c'est une réelle réaction ou c'est juste... Les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui sont arrivés et qui se sont dit, moi j'ai envie de montrer que.
Oui, mais ça c'est une partie. Oui, c'est une forme
de
réaction.
Parce que la réaction,
c'est de la gestion humaine, ça. C'est
ouais,
du
mais c'est de l'orgueil.
On
c'est
met
de l'orgueil,
en avant
mais
les
c'est pas de l'orgueil. En fait,
c'est déjà arrivé que les deux seconds couteaux, ça soit ultra décevant.
Oui,
je pense à un France-Tunisie, le troisième match de la Coupe du Monde.
C'est pas toujours le contexte, c'était difficile parce que
c'est la responsabilité.
Les titulaires, entre guillemets, n'avaient pas fait le boulot vendredi au Parc.
Ouais.
Et donc, c'est à toi, qui d'habitude joue très peu, bon, à part la défense, parce qu'en défense, il y avait quand même Jules Koundé,
Saliba,
Upamecano, c'est trois des quatre qui jouaient à l'Euro. Mais à part la défense et avec le gardien, les autres, ils n'ont pas trop l'habitude d'y jouer. Et on leur dit, les gars, c'est à vous d'effacer ce que les autres ont fait vendredi.
Non, mais c'est ça. T'as une responsabilité, en plus.
Ah oui, donc...
Tu joues contre la Belgique. On rigole, mais c'est toujours un adversaire assez gênant, tu vois.
Évidemment.
Donc, tu es toujours dans la responsabilité de te dire, il ne faut pas qu'on perde contre les Belges. Et donc, du coup, là...
Oui, en plus, la Belgique qui avait gagné son premier match, la France perdait contre la Belgique, elle était déjà décrochée au classement. Donc, il fallait gagner.
Mais parmi les satisfactions, parce que je pense qu'on ne parlera pas de lui, je voulais vous dire quand même, Annie, que Jules Koundé, qui sort pour moi d'un très, très bel euro, a encore éteint deux coups hier soir. Je trouve que pour un joueur qui n'aime pas vraiment jouer latéral droit... Et qui, c'est vrai que du point de vue de l'apport offensif...
J'ai l'impression qu'on l'oblige, parce que même à Barcelone...
Je trouve que c'est un joueur fantastique, qui est un peu sous-coté, dont on ne parle pas trop, qui a été gardé par Barcelone. Alors peut-être que Barcelone a des problèmes financiers, mais ils l'ont quand même gardé.
Oui.
Il est titulaire avec Hansi Flick, donc pour moi, il est très très bon.
Et il est bien habillé, en plus.
Il est bien habillé, et en plus, parce que Klose, la prestation de Klose contre l'Italie, c'était une vraie catastrophe.
Il a été, Klose, que je vois jouer
assez
souvent.
Je ne suis pas sûr qu'il revienne.
Mais
parce que là, après un truc comme ça, je ne suis pas sûr qu'il revienne.
Il reviendra à cause par le fait qu'on n'a pas assez de latéraux, notamment à droite.
Quoi. Pavard, il va revenir.
Après, contre l'Italie, je pense que Klose n'est pas le seul à avoir été catastrophique.
Moi, j'aimerais savoir, ces deux joueurs aussi qu'on critique beaucoup pour leur inefficacité devant le but, c'est-à-dire Colomouani et Dembélé, ont marqué. Est-ce qu'ils ont marqué des points aussi est-ce que vous ont convaincu parce qu'ils ont marqué hier?
Non, mais il y a deux, il y a Dr Jekyll et Mr Hyde, Annie, il y a deux Colomouani. Il y en a un au PSG qui n'a pas le niveau technique d'une équipe très, 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 très forte. Donc, c'est-à-dire que lui, il vient de Nantes, de Francfort, des clubs... très bon club, mais moyen. Là, techniquement, il est dans la crème de la crème avec des Asensio, des Barcola, des Vitinha, des vraiment des joueurs d'un gros calibre. Et là, il passe pas le cut parce que techniquement, il est encore un peu limité. Mais en équipe de France, il a la confiance. Donc, ça change un peu un joueur. Hier, il met un but, mais il n'a pas fait un match non plus extraordinaire. Quant à Ousmane Dembélé, c'est que son 6e but en 51 sélections. Oui. Parce que ce garçon, et pourtant, il a les deux pieds, pied droit, pied gauche. Mm-hmm. Mais lui-même ne sait pas. Alors, un jour, son entraîneur lui a dit, tu tiens les pénaltys avec quel pied? Il a dit le droit. Donc, t'es droitier. Mais moi, j'en suis pas sûr, parce que hier, son but, il est du gauche. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a les deux pieds.
Ça s'appelle ambidextre.
Ouais, il est fantastique, mais malheureusement, il a plus l'amour de la passe que du but. Il a ce côté. La finition ne l'intéresse pas. Il dit qu'il va travailler
ça.
J'attends, parce que ça peut être fantastique. S'il se met à mettre 15 buts par an, on va avoir un nouveau Ousmane Dembélé à 27 ans. Ce serait rigolo.
Il apporte un danger incroyable, mais il a un déchet aussi à la hauteur.
Mais il a un déchet à la hauteur de ses émotions.
Il a du mal à passer de la phase d'élimination de percussion à la phase de la petite fraction de seconde de réflexion où il va décider quelle est la bonne finition. Parce que c'est pas un joueur lambda, il doit être un top joueur Dembélé. Il est programmé pour, il est international, il joue au PSG.
Ça fait longtemps qu'on attend quand même.
Et en fait, il a une finition de joueur de club de D2 quoi, ou de bas de tableau. Et donc il y a un hiatus pas possible.
À chaque fois que Dembélé.
Donc je pense qu'il doit réfléchir et se concentrer en fait.
Non, mais c'est même pas une question de concentration, c'est une question de c'est des émotions. À chaque fois qu'il met des mines, à chaque fois qu'il veut finir quelque chose en frappant fort, il
arrose les tribunes en général.
Parce qu'il est pas capable de contrôler ses émotions, il met tellement de trucs dedans et
mais
comme
depuis
il a
temps.
Il sait pas doser
mais
quoi.
Non mais je te promets que c'est ça.
Ça fait longtemps
mais
que
ça fait longtemps
qu'il
parce
est comme
que
ça.
Il faut le faire travailler.
Ouais.
Il faut le faire travailler, je suis désolé, alors, il faut
si
le faire
à
travailler.
Barcelone et à Dortmund, on l'a pas fait bosser ça, ça fait peur.
Mais moi je pense qu'on l'a pas fait travailler puisque aujourd'hui, il est encore comme ça donc à un moment donné T'es obligé de progresser.
T'as eu que mal.
Je te prends un autre truc. Tu crois qu'un Curry au basket, il a pas fait 50 millions de shoots pour arriver à maîtriser autant.
Oui, mais il faut
mais
le
c'est
faire.
Comme ça.
Il a eu Touré à Dortmund. Il a eu Koeman. Quand même, bon, on peut ne pas aimer, mais Koeman quand même.
Xavi.
Il a eu Xavi comme entraîneur à Barcelone.
Il y a Luis Enrique là. C'est pas des tocards.
Et tu me dis que.
Mais bien sûr. Moi, je suis désolé, mais il y a une responsabilité de l'entraîneur là-dessus. Là, donc, si t'es pas capable de lui mettre
aussi,
un cadre.
Le foot, tu travailles 3 heures par jour. Alors, le reste du temps, tu fais la sieste, tu vas chercher tes gosses à l'école et tu regardes la télé.
Non, mais
si les gars, ils sont pas capables.
Sur les 3 heures de.
Non, mais par exemple, Cristiano Ronaldo, on sait toujours qu'après l'entraînement, lui, il restait des heures pour s'entraîner.
Et ça prend 10 minutes. Ça prend 10 minutes après chaque entraînement.
Déjà, Dembélé, parfois, il arrive à changer la vie.
Moi, j'aimerais aussi vous poser une question. Et Dominique, vous étiez dans le stade hier de Lyon. Il y a eu des sifflets sur certains noms, et notamment les noms des cadres.
Alors, le premier,
et notamment...
c'est Deschamps.
Deschamps. Et Mbappé. Mais alors, le premier, c'est Barcola. Bon.
Ils ont connaît l'histoire. Le Lyonnais qui a trahi un peu son club.
Deuxième, c'est Didier Deschamps qui a été le plus sifflé. En troisième, Kylian Mbappé. Et en quatrième, Guendouzi, parce qu'il a joué à Marseille. Ils n'aiment pas tout ce qui vient de Marseille.
Bon, alors, concentrons-nous sur Deschamps.
Bon, on peut enlever
Deschamps
Guendouzi
et Mbappé, bien sûr.
Barcola,
alors, Deschamps,
je
crois que j'ai fait, peut-être, j'ai dû rater 3 matchs de l'ère Deschamps, donc depuis 2012, vous voyez, je suis quelqu'un qui s'accroche.
Fidèle.
Ça fait 12 ans que je fais.
Expérimenté, on va dire.
C'est la première fois que j'entends un stade siffler Deschamps en France. Ça, c'est la première fois. Donc, ça veut dire que les gens, contrairement à ce qu'il dit lui, il dit oui, il y avait du monde en Allemagne qui est venu nous voir. Et les gens, ils se sont ennuyés à l'Euro.
Une usure.
Les gens n'aiment pas le football qu'il propose. Après,
vite,
Deschamps, on le connaît. Ça va pas devenir Copacabana. Hein. Ça sera toujours comme ça. Quand vous prenez Didier Deschamps, c'est un entraîneur défensif.
Mince alors.
Donc voilà. Donc, si les gens n'ont pas compris ça au bout de 12 ans, il ne va pas devenir Pep Guardiola.
Moi, à mon avis, les gens acceptent que le jeu de Deschamps soit défensif et que ce soit un peu la continuation des
Méjaquets.
Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est qu'il n'y ait pas des émotions. Parce que si on est défensif, mais qu'il y a 3 exploits extraordinaires de nos attaquants...
Comme on avait auparavant.
Et que la France gagne
3-1,
les gens s'accommoderont et que Griezmann est hyper inspiré et qu'on s'en remet au talent des individualités pour transcender une équipe peu créative, ça ne gênera pas. Mais s'il n'y a rien, s'il y a la défense
le talent,
les joueurs de talent ne donnent pas ce qu'ils doivent donner, les gens, ils sifflent. Hein, c'est
Eric,
logique.
Vous comprenez que Kylian Mbappé soit sifflé?
Après, c'est sûr que c'est ça fait tâche par rapport à ce qu'il a apporté à l'équipe de France. On ne peut pas oublier ce qu'il a fait en équipe de France. Maintenant, aujourd'hui, dans son rendement et dans son comportement, il y a des interrogations. En fait, on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre qui est Kylian Mbappé aujourd'hui.
En ce moment.
Il a l'air un peu perdu. On en parlait avec David Finzel. Pour lui, il parle de burn-out éventuellement, mais c'est possible.
Pierre
mais
Guérin parle de burn septembre.
Ah ouais.
Pas mal.
Mais il y a
un problème, c'est sûr. Parce que
jeudi, il a fait sa rentrée médiatique française avec une conférence de presse à la veille de France-Italie qui était extrêmement mauvaise.
Elle était lunaire.
Je veux dire qu'il a, il a parfois séché à des réponses.
Il est le capitaine, rappelons-le.
Mbappé, vous savez, devant le micro, normalement, il est
très à l'aise. Ouais.
C'est Barack Obama, quoi. Il est capable de parler de tout, il est tranquille, il ne fait pas des blagues. Là, il n'a pas su répondre à certaines questions. Quand il répondait, c'était avec une sorte de condescendance et de mépris pour le public français, pour l'avis des journalistes, pour l'avis des gens qui se sont ennuyés à l'euro. Donc, comme si c'était de notre faute, c'était nous le problème.
Et
pas ceux qui avaient joué à l'euro. Alors, lui, il était victime des consignes de Didier Deschamps. Mais n'empêche que l'équipe de France, comme le disait Patrick, elle a dégagé très peu d'émotions en Allemagne et que donc on avait le droit de faire un bilan et il nous a un peu éconduit. Ça, les gens, ils sont sur les réseaux sociaux, ils regardent les conférences de presse qui sont sur des chaînes gratuites, ils ont vu l'attitude de Kylian Mbappé qu'ils n'ont pas vu depuis deux mois. Après une séquence JO, vous avez eu du Léon Marchand, du Pauline Ferrand-Prévot qui sont revenus, qui ont souri tout ça, et qui se sont dit, mais attendez, c'est quoi
même
ce
au
truc
micro des RFI, hein.
Bah voilà, et qui se sont dit, c'est quoi ce joueur-là qui, parce qu'il signe au Real Madrid, nous prend de haut, donc ils n'ont pas aimé.
Quelle est votre explication, Dominique?
Ah, je pense que c'est un garçon qui, depuis 4 ans, il y a un conflit tous les deux mois autour de son nom. Un conflit que ou il génère ou qu'il subit. Et qu'au bout d'un moment, ça use. Qu'il a 25 ans et qu'il a déjà l'impression d'avoir. On a l'impression qu'il est dans le décor depuis 20 ans. Je pense que sa carrière. Et sa carrière.
8 ans.
Elle est déjà trop. Il y a déjà trop de trucs. Il y a eu trop d'articles sur lui. Il y a eu trop de compliments.
Il va y avoir
trop de reproches. Il veut le départ de Neymar. Mais non, c'est pas lui qui a demandé le départ de Neymar. Et puis Messi s'en va. Puis non, mais c'est pas lui qui veut que Messi. C'est trop. Toutes les semaines, il y avait quasiment une polémique. Encore une fois, qu'il l'ait généré, qu'il l'ait suscité ou qu'il l'ait subi. Mais ça, pour moi, ça pollue la vie d'un footballeur. Lui, au départ, c'est un gamin de Bondy qui veut jouer au foot comme n'importe quel joueur de foot. Et donc, je pense qu'il est dépassé un peu par le personnage ou le monstre que j'ai créé et qu'on a tous créé collectivement.
Une dernière question, et vous allez me dire oui ou non. Est-ce qu'on reverra Kylian Mbappé qu'on a vu à ses débuts et en 2018?
C'est plus le joueur que vous avez vu, Annie, quand il a éclos à Monaco. Il s'est transformé déjà physiquement. Il a 25 ans. J'insulterai jamais l'avenir avec un joueur comme ça. Je ne pense pas que ça sera un joueur lambda.
Moi, je pense que il a encore besoin de se libérer.
Oui ou non ?
Non, moi, je sais pas trop parce que je trouve qu'il a pris la grosse tête et que c'est pas bon signe pour lui et pour la suite.
Moi, je pense qu'on le reverra parce que s'il a pris la grosse tête, le Real Madrid, c'est pas un club où on peut la garder longtemps. Et ensuite, je pense qu'il a l'intelligence suffisante pour avoir une réflexion sur son jeu. Et se réadapter, réinventer.
Il a tout ce qu'il faut pour changer.
Donc, moi, je ne désespère pas.
Et dans son entourage, il a sûrement ce qu'il faut pour le conseiller.
Il va jouer avec Bellingham quand il va revenir de blessure. Et Vinicius, il ne joue quand même pas que des mauvais joueurs.
Mm-hmm. Voilà.
Bon, espérons. En tout cas, revoir Kylian Mbappé, ça ferait plaisir.
Ça serait bien pour nous.
À tout le monde, oui. Mais surtout pour le spectacle.
Oui, patience. S'il est un petit peu en déprime, le burn-out, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui en souffrent.
Surtout si tu joues en même temps.
On attend un petit peu et ça va bien et on attend.
En tout cas, ceux qui nous ont plu, alors certes à nos dépens, eh bien, ce sont, on le disait tout à l'heure, les Italiens. Et comme on aime la Squadra Azzurra, comme on aime aussi Matteo Cioffi,
Maestro. On aime bien
Maestro Salerno quand même, notre Italien.
Ah oui, oui.
Eh bien, justement, on va aller parler de l'Italie avec un Italien.
Vada la parte opposta di Marco, triangolazione al volo, il tiro, rete, grandissima rete di Federico Di Marco. Frattesi. E siamo avanti noi, esattamente al quinto minuto. Udogi si accentra la palla sul destro, poi in aria per Raspadori. Raspadori! Cagliamo il tris!
Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino, se assisto bene sarà perché ti amo.
Ah Eric, hein, vous connaissez bien l'italien.
Ah oui, les chansons que je sors.
Oui, il fête son anniversaire apparemment,
mercredi.
C'est quelque chose. En tout cas, Tiamo, eh bien, renouer avec la victoire en étant convaincant, c'est peut-être ce que leur disent les Italiens, car cela fait longtemps que l'Italie ne goûtait plus véritablement une grande satisfaction. Hein, bon, il y a eu la parenthèse enchantée de l'euro, mais alors, oui, depuis longtemps quand même, ouais. Hein, ils sont pas.
Ouais, mais ils ont gagné l'euro, donc du coup, ça atténue.
Oui, ben, mais là, le dernier euro, c'était pas terrible. En tout cas, les Italiens nous ont battus vendredi soir sur le score de 3-1. Et puis hier, ils ont battu Israël sur le score de 2-1. Alors l'Italie ne battait plus la France. Matteo m'a demandé si j'allais le dire. Oui, je le dis, Matteo. Elle ne battait pas la France depuis 16 ans et sur le sol français depuis 1954. Vous voyez le drame qu'on a vécu vendredi soir. En tout cas, en Italie, il paraît que le sourire est revenu. Bonjour Matteo.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour tout le monde. Bien ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, j'attendais cette émission.
Tu m'étonnes.
Matteo, dites-nous, les tifosi et les observateurs sont contents, heureux en Italie?
Bah oui, une bise de victoire qui a vraiment redonné du moral aux joueurs de la nationale, à leur entraîneur et surtout à une opinion publique qui après l'Euro s'était justement acharnée sur la squadra azzurra, elle est tenue coupable d'avoir disputé en Allemagne une compétition à la limite de la honte, j'en dirai pas plus. Mais bon, la presse s'est pardonnée et a donc applaudi cette nouvelle nationale, et bien entendu dans le calme. Hein. Ce matin, par exemple, Tutto Sport a titré « Va bene così », traduit « Comme ça, c'est bien ». On maintient donc un certain aplomb, car le chemin qui mène à la définitive renaissance pourrait cacher quelques pièges.
Ah, quelques pièges. Bon, alors, ici, on est plutôt... ça bien. Nous a fait sourire, l'Italie. Hein, ça nous a plu. Elle vous a plu, Eric?
Moi, bien sûr. Bon, elle a été sérieuse, elle a été efficace. Donc, non, c'est très bien.
Hein, j'ai aimé le jeu développé au Parc des Princes. J'ai aimé
Di Marco.
Di Marco, je ne connais pas très, très bien. Mm-hmm. Pour moi, il a mis un but fantastique sur une remise de Tonali. Tonali, au revoir, Tonali.
Alors, on va en parler.
Ça, franchement, c'est génial. Donc,
moi, j'aime Calafiori, mais Matteo, vous ne voulez pas en parler aujourd'hui.
J'étais orphelin. Marco Verratti, finalement, ils n'en ont plus besoin.
Hein. On se demande bien pourquoi Matteo préfère parler de Tonali. Hein,
oui, c'est bizarre.
On va voir. En attendant, on va écouter Paolo Maldini, hein, la légende du foot italien. Lui aussi, il résume très bien la satisfaction. Alors là, plutôt du côté des grands connaisseurs que sont des joueurs.
Parfois, nous avons besoin de patience, mais aussi de pondération dans notre approche. Le fait d'avoir manqué les deux dernières Coupes du Monde a certainement eu un impact quant à la question de la valeur de notre football. Je crois en notre équipe. J'ai entendu dire qu'il faudra toujours compter avec l'Italie, et cela me semble justifié. Pour moi, la victoire contre la France a fait beaucoup de bien à l'environnement.
Maqué, Matteo.
C'était très clair, le maqué.
Matteo ?
Oui, je suis là.
Marc, donc on s'essaye à l'italien maintenant que vous gagnez. Dites-nous, Dominique a remarqué un certain Sandro Tonali, et c'est vrai qu'on a deux joueurs qui sont de retour quand même dans l'équipe italienne.
Ben oui, le premier, vous le venez de dire, c'est Sandro Tonali, suspendu pour 10 mois à cause de l'affaire des paris.
Et une histoire de paris sur des matchs, hein, qu'il n'avait pas le droit de faire.
Sur des matchs de football, exactement. L'ancien milaniste qui joue aujourd'hui à Newcastle, est retourné en équipe nationale avec une double prestation de vraiment haut niveau. Tonali est il faut le reconnaître, le metteur en scène de cette équipe. On dirait presque un Gennaro Gattuso à qui on ajoute en plus une excellente technique. Donc les joueurs s'est mérité à la fin l'éloge de tout un pays, mais surtout de son entraîneur qui Luciano Spalletti, qui a parlé de lui avec des mots pleins d'admiration, en soulignant que ce joueur est vraiment capable de tout, avec une façon de jouer qui peut aider chacun de ses coéquipiers.
Mmh. Et puis un autre, on va y revenir à Tonali, mais on vous laisse la parole, c'est un certain Parisien, ex-Parisien, un certain Moïse Keane.
Ah oui,
Moïse Keane qui à 16 ans avait été annoncé un peu comme l'enfant prodige du football italien, mais qui à fur et à mesure des années n'a pas su se confirmer au grand niveau. Aujourd'hui pour lui, c'est une deuxième vie de footballeur qui pourrait s'ouvrir. Il a quitté la Juve où il était presque toujours remplaçant ou blessé. L'année passée, il a disputé 19 rencontres avec les Bianconeri. série avec un bilan de 0-0-0 but inscrit. Et aujourd'hui, il a été donc transféré pour 14 millions d'euros à la Fiorentina avec la Viola dans les 5 premières rencontres, toutes compétitions confondues. Il a déjà réalisé 3 buts. Et hier, après exactement 3 ans, il a retrouvé la voie défilée avec le maillot de la squadre, un maillot avec lequel jusque-là, il a marqué seulement 5 buts en 17 matchs.
Messieurs, alors parlons de ces joueurs. Sandro Tonali, Dominique, vous aviez voulu commencer.
Non, mais je trouve que moi, ce qui m'a, j'ai été déjà, c'est un joueur que je trouve magnifique. Mais je me disais, après 10 mois de suspension, bah vous revenez, vous vous cachez un peu, c'est normal. C'est un match international, c'est à l'extérieur, vous faites semblant, vous jouez 10 minutes, vous vous reposez 10 minutes. Et là, on a vu que lui au Parc des Princes. Donc là, hier, comme j'étais à Lyon, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait à Budapest contre Israël, mais j'ai lu un peu les résumés. Donc ça, c'est déjà sa présence de revenir et d'être déjà au taquet.
Il leur avait manqué pendant l'Euro.
Bien sûr.
Surtout que la compétition, si tu ne remplaces pas la compétition comme ça, donc en fait, tu peux t'entraîner tout ce que tu veux, mais rater la compétition, c'est difficile de se maintenir à un certain niveau. Donc ouais, c'était assez surprenant de le voir à ce niveau-là. Moi, je voulais revenir sur Moïse Kean parce que je
t'en fous, Tonali.
Non, mais parce que justement,
parce
moi
je trouve
que c'est un bon joueur et je comprends pas qu'il est en manque de considération, je trouve aussi. Alors oui, je pense que émotionnellement, c'est ce qui fait que
le PSG
se blesse.
L'a pas super bien considéré non plus.
Mais bien sûr, je suis complètement d'accord. Moi, j'adorais ce joueur et j'aurais préféré qu'il le garde, mais ils l'ont pas gardé. Et en fait, c'est un peu ce qui se répète à chaque fois pour lui. Et je trouve ça dommage parce que c'est un vrai bon joueur.
Patrick Juillard. Entre les deux, votre cœur balance ou vous aimez les deux ?
Moi, j'adore Tonali parce qu'il me rappelle un peu Pirlo et pas uniquement parce que c'est comme Pirlo, un joueur passé par le club cher à notre correspondant. Mais j'aime l'idée qu'on ait encore dans le foot moderne des joueurs comme ça, des meneurs de jeu, des joueurs qui éclaircissent le football par la passe, par la vision, comme un peu Modric en Croatie.
Comme fut Toni Kroos aussi.
Et d'ailleurs,
un peu
sur ce match, on a vu. Par négatif, on a vu avec le milieu italien ce qui manque parfois au milieu de terrain de l'équipe de France où il y a beaucoup de profils de joueurs physiques avec beaucoup d'abattage comme on a vu Koné qui a fait un bon match contre la Belgique, mais c'est encore un profil qu'on a déjà
à la française,
et il nous
dire.
Manque un petit peu des joueurs comme on en avait beaucoup
des
à l'époque de Michel Platini.
Ben oui.
Ou même de Zidane et qu'on a de moins en moins.
Matteo, à vous la parole encore quelques instants. Est-ce que ça vous rend optimiste pour cette équipe italienne?
Bah oui, il faut être honnête, ça m'a plu cette nationale, et j'ai bien aimé les caractères de joueurs, j'ai bien retenu aussi la réaction très fort après les chocs du début face à la France qui avait ouvert le score après seulement 14 secondes et mentalement ça pouvait tout de suite tourner au désastre, mais ça a pas été le cas. Et autre aspect intéressant du point de vue tactique, on a remarqué, vous venez peut-être de le dire si j'ai bien compris, on a remarqué cette cernière qui a uni la défense et les milieux de terrain et qui était une démonstration d'unité de l'équipe qui avançait ballon au pied avec beaucoup de ses effectifs, compris les défenseurs. Et donc voilà, il faut espérer que ça n'a pas été un cas et que dans un mois on répétera les mêmes mots.
Exactement.
Et en plus, vous avez un très bon capitaine et gardien de but. Hein. Je me demande où il joue.
Ouais. Non, mais je l'aime bien. Lui aussi faisait partie de la maison, non?
Il a fait partie de la maison. En tout cas, Matteo, c'est vrai que Spalletti, il le disait quand même avant l'Euro, il n'avait pas eu assez de temps. Il est arrivé quand même un peu en catastrophe. On se souvient du départ de Mancini. Et on a l'impression que lui et ses joueurs commencent à prendre leur marque. Et ça nous semble très intéressant. Donc, on aura l'occasion de se reparler. En tout cas, merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en ligne dans Radio Foot. À bientôt.
À bientôt.
Ciao, bonsoir. Ciao. Et messieurs, c'est déjà la fin de Radio Foot International.
C'était encore le meilleur.
Ça va toujours, Annie.
Oui.
Vous avez dit que quand
moi,
ça va. Ça va. Bon,
même
ça va.
Même je reviendrai demain.
Ah, bah tant mieux. On écoutera.
Bon, on se retrouve demain, chers auditeurs, pour continuer à parler de football. Et messieurs, on se retrouve les prochains jours.
À
demain.
Salut.